Aujourd'hui, en entrant dans la 17e semaine du temps ordinaire, nous fêtons Marthe et Marie, Lazare. Bon, essentiellement Marthe, si je comprends bien ce que dit le calendrier, mais enfin. Quoi qu'il en soit, c'est pas très évident, car du point de vue des lectures, autant la première lecture est celle de Jérémie, autant l'évangile, il y en a deux possibles, et d'après ce que j'ai vu, tout le monde n'est pas d'accord sur celle qu'on choisit. Donc que vous choisissiez Luc ou Jean, je vais parler des deux. Donc dans Jérémie, on a une histoire de ceinture. Et c'est intéressant de voir la pédagogie divine. Bon, Jérémie est un prophète, donc il est suivi, il a des followers de l'époque. On regarde ce qu'il fait. C'est un influenceur. C'est pas notre époque qu'il a inventé. Hein. Voilà. Puis là, c'est autrement plus réel. Dieu lui dit d'aller acheter une ceinture, il va acheter une ceinture. Donc tout le monde le voit aller acheter une ceinture. Puis ensuite, il enlève sa ceinture, il va la cacher parce qu'on lui a demandé. Donc tout le monde voit qu'il a plus la ceinture qu'il avait achetée. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Puis ensuite, il va rechercher sa ceinture. Alors il ne s'est pas passé 3 semaines hein, pour que la ceinture soit dans l'état dont nous parle la lecture. Il s'est passé des mois, au moins. Et la ceinture est inutilisable. Et donc on ne sait pas si Jérémie essaie de la mettre ou pas. Et on ne sait pas la réaction des gens non plus, qui le voient revenir avec sa ceinture pourrie. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que il reçoit l'interprétation de ce qu'il vient de faire. Et on peut remarquer l'obéissance du prophète qui fait, qui est vraiment conscient d'être mu par la parole de Dieu. Et au fond, eh bien Dieu évoque l'orgueil. L'orgueil, voilà comment je vais détruire l'orgueil de Judas. Et alors nous avons la définition de l'orgueil. L'orgueil, c'est d'abord refuser d'écouter. Et ça reviendra à la fin du texte. Ils n'ont pas voulu écouter. Et l'orgueil, c'est persévérer dans l'obstination. Et l'orgueil, c'est suivre des dieux étrangers. Alors, tout ça nous parle singulièrement, évidemment, dans notre monde où on choisit de suivre plutôt, enfin d'écouter, mais d'écouter ce qu'on veut écouter et de ne pas entendre ce qu'on ne veut pas entendre, de rester obstiné. Dans nos erreurs, souvent c'est le message que le monde envoie, et alors le problème c'est que ça influence. Oh bah oui, mais si tout le monde fait comme ça, vous comprenez. Voilà, et du coup ça nous influence, et nous suivons des dieux étrangers, celui de l'argent, celui du pouvoir, celui de la prétention, celui du mensonge, etc. Et au lieu de revenir à ce à quoi nous devrions revenir, c'est-à-dire retrouver cet état de créature qui se tourne d'abord vers Dieu pour voir vers où elle doit aller et comment elle doit se comporter. Donc cette importance de l'écoute qui est ici vraiment beaucoup mise en valeur. Et donc on peut conclure que ce refus d'écouter conduit à se trouver HS, hors service, inutilisable. Donc l'orgueil nous rend inutile. Saint Benoît, dans sa règle, parle du frère utile et du frère inutilus. Le frère utile et le frère inutile. En faisant certaines choses, nous nous rendons inutiles. Voilà, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et puis, alors, dans l'Évangile, il est aussi question d'une certaine utilité. Et là, c'est pas une histoire de ceinture, c'est une histoire de femme. Alors qu'on prenne Luc ou Jean, dans Luc, il y a une question d'action, une femme en action. Et puis en Jean, il y a la question d'une femme qui adhère, qui a la foi. Mais nous constatons que dans les deux textes, Marthe formule des reproches à Jésus. Et en Luc, elle lui reproche, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Ben, c'est quand même évident, quoi. Tu devrais quand même dire à ma sœur de faire quelque chose. Donc, elle est dans le reproche, clairement. Et en Jean, elle lui dit, tu n'es pas là où tu aurais dû être, quoi. Si tu avais été là, voilà. Enfin, il n'a pas dit que c'était de sa faute, mais enfin, c'est quand même un peu limite, quoi. Et ça, alors ça, c'est ce qu'on appelle des jeux psychologiques. Donc c'est intéressant de voir qu'on ne les a pas inventés non plus. Voilà, alors en Luc, bon, la réponse de Jésus va se tourner vers Marie, où le texte grec lui fait dire une seule chose est nécessaire. Bon, c'est pas possible que Jésus ait dit ça, parce que nécessaire, c'est une abstraction. On ne peut pas mimer le mot nécessaire. C'est une abstraction. Or, l'araméen n'est pas une langue d'abstraction. Donc Jésus n'a pas pu dire ce mot-là parce qu'il n'existe pas en araméen. Alors quand on va voir la version syriaque, donc de l'araméen chrétien, on trouve une formule verbale qui est une seule chose est à rechercher. Alors il y a quand même une nuance assez nette. C'est que nécessaire, c'est sans appel à rechercher. Ça veut dire que y a une action, y a une orientation de la personne. Et ça veut dire aussi que ce que Marthe fait quand elle accueille tout le monde, c'est pas à rechercher, c'est naturel. Quand on accueille, on sert. Par contre, ce que fait Marie est un choix délibéré d'elle-même. Elle a choisi une part bonne, dit le texte syriaque. Bon, en grec, on a la meilleure part. C'est pas, je pense pas qu'il y ait de comparaison réellement. Elle a choisi quelque chose. Eh bien, je respecte son choix. Toi, tu as choisi de nous servir. Si tu ne m'avais pas posé de questions, je ne t'aurais rien dit. Mais voilà, tu vois, chacun son choix. Et en fait, ce qui, à mon avis, on peut mettre en valeur là, c'est le fait que nous devons nous réjouir du choix des autres quand ils sont bons, évidemment. Ah oui, mais moi j'aimerais bien. Non, ensemble nous formons un corps. Et la main ne peut pas faire ce que fait le pied et dire, ah ben moi j'aimerais bien que tu marches sur mes mains. Ouais, mais ça va pas être commode, hein. Et le pied peut dire, moi j'aimerais bien écrire. Ouais, mais ça va pas être commode non plus. Donc voilà, je crois que ça c'est important. Et en Saint Jean, donc on a un épisode un peu différent de la résurrection de Lazare, mais toujours ses reproches. Et on retrouve quelque chose du dialogue avec la Samaritaine où elle semble ne pas très bien comprendre, tout en comprenant, Jésus tourne autour, elle tourne autour. Et là c'est pareil, Jésus lui dit, je suis la résurrection, est-ce que tu le crois? Et elle dit, oui, je crois que tu es le Messie. Mais elle n'a pas dit, oui, je crois que tu es la résurrection. Il y a peut-être, il y a peut-être, peut-être, peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui dit, écoute, ouais, j'y crois, mais je ne l'ai pas encore vu. Bah, par définition, si tu le crois, tu ne l'as pas vu. Et c'est un peu intéressant de voir que c'est parce qu'elle le croit qu'elle va le voir, Jésus, ressusciter son frère. Ça, c'est très important. Alors, tout ça nous parle donc. Alors, j'ajouterais, oui, avant de conclure, j'ajouterais que. Ce jeu psychologique, il faut tout de même le nuancer, parce que tout ça est dit avec amour et foi. Ce qui veut dire, ça nous enseigne dans notre relation à Dieu, hein. Nous devons être vrais, on n'a pas à faire la toilette de notre prière et dire des choses qui vont plaire à Dieu. Dieu est content qu'on lui dise ce qu'on pense. Il le sait, il le connaît, c'est pas la peine de la lui faire, il sait déjà ce que nous pensons. De le dire avec foi et amour, ça dépend de nous. Et même si parfois on lui donne des conseils, je pense à Ananie, vous savez, Ananie, quand Paul tombe de. On ne sait pas de quoi d'ailleurs, si c'est un cheval ou une autruche. Enfin, en tout cas, il tombe par terre à Damas, et puis et donc il arrive à Damas, sur le chemin de Damas, il y arrive, et Dieu apparaît à Ananie, et lui dit, va, machin. Bon. Et Ananie lui dit, oh, tu sais, s'il est là, il faudrait mieux se méfier. C'est très beau de voir cette manière de dire à Dieu, tu t'as peut-être pas pensé à tout, quoi. Mais c'est dans l'écriture, c'est révélé. Ça veut dire que c'est parce que Anani peut dire ça que Dieu se réjouit de lui dire, t'inquiète pas, j'avais vu, figure-toi que je suis Dieu et que j'avais vu. Voilà, c'est très beau, ça, entrons dans cette relation à Dieu. Je pense que c'est un peu un des aspects de cette fête, de nous dire quelle est ma relation à Dieu, quelle relation j'ai à Dieu, est-ce que j'ose lui dire ce que je pense, avec douceur, avec vérité, pour que du coup il puisse me rejoindre là où je suis vraiment et non pas là où je fais semblant d'être. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Non, mais écoute, si tu penses que s'il y en a trop, il faut gueuler, quoi. Il faut le dire un bon coup. Et Dieu pourra venir nous rejoindre, mais si nous faisons semblant d'aller, que nous sommes contents alors que nous ne le sommes pas, ça nous ronge de l'intérieur. Bon, voilà, bref, profitons-en pour nous poser la question de notre relation à Dieu, de piquer notre colère comme Jonas, comme Job. Voilà, faut piquer une colère de temps en temps, hein. Ça prouve qu'on croit que Dieu existe. Mais toujours écouter, ne pas rester comme ce peuple dont parlait Jérémie. Écoutez, voilà, j'ai piqué ma colère, qu'est-ce que Dieu dit? Un silence. Ah, parfois Dieu répond par un silence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire une très très grande compassion. Ça veut peut-être dire ce que je veux te dire, tu peux pas encore l'entendre, tu es trop en colère. Bon, etc., etc. Amen.